Elles n'ont pas été respectées, et de toute façon, c'est une promesse qui est un véritable serpent de mer, aussi bien dans le cadre national qu'international. Et donc, la critique ici est totalement fondée. Elle renvoie d'ailleurs à une autre critique qui est souvent émise à l'encontre du G8, à savoir que le G8 sert de vitrine pour les grandes puissances économiques qui, à bon compte, s'autorisent des promesses qu'elles savent pertinemment ne pas vouloir tenir, et non pas ne pas pouvoir tenir. Et le cas de l'aide au développement est sans doute le plus exemplaire de ces fausses promesses.
Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'aide aux pays sous-développés?
Il me semble qu'aujourd'hui, la pensée en termes d'aide au développement est une pensée peu élaborée. On a sans doute beaucoup plus d'évaluation sur ce qui s'est fait qu'il ne fallait pas faire ou sur les dérives de l'aide au développement que des propositions constructives. Sans doute l'OCDE est-elle la seule instance où véritablement se réfléchit une nouvelle pensée d'aide au développement, mais en dehors de ces lieux, je crois qu'aujourd'hui, on est en face d'une grande lacune sur ces thématiques. On n'est pas sur des thématiques qui sont véritablement cruciales pour le G8. D'une certaine façon, si on voulait être très critique, eh bien, on pourrait dire que l'aide au développement, c'est un petit peu ce que représente l'humanitaire dans le cadre d'une politique étrangère. On sait qu'on joue sur l'émotionnel, on joue sur l'imaginaire, mais ce n'est absolument pas cela qui remet en cause les politiques économiques qui sont suivies.
Un des artisans de l'annulation de la dette du continent africain est M. Tony Blair, le Premier ministre britannique. Est-ce que son départ risque d'avoir une influence, selon vous ?
On connaît assez peu les positions de son successeur sur l'aide au développement ou le rapport aux pays du Sud. Cela étant, il faut savoir qu'il y a les actes et les discours. La politique française se traduit très souvent par des discours très généreux et par des actes qui concrètement ne suivent pas la générosité des discours. Il n'est pas certain qu'une analyse très fine de la politique britannique ne manifeste pas le contraire, c'est-à-dire un discours plutôt restrictif et une capacité à engager une politique publique d'aide au développement qui soit finalement plus créative, plus inventive que, par exemple, la politique française. Et généralement, les analyses produites montrent que les Britanniques n'ont absolument pas à rougir d'une comparaison avec d'autres pays en ce domaine.
Alors justement, vous parlez de la Grande-Bretagne, de la France. Est-ce que, plus généralement, quand on parle des pays du G8, il y a une divergence entre ces pays quant à l'attitude à adopter envers le continent africain ?
Oui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique étrangère commune entre les États européens membres du G8. Donc on a aujourd'hui une véritable concurrence des États sur ce continent. On le voit bien du reste avec le Darfour, où chacun sait que le rôle de la Russie et de la Chine est prépondérant et personne ne parvient à se mettre d'accord. Il en est pour le Darfour comme pour l'ensemble de l'Afrique en règle générale.
Enfin, est-ce qu'une meilleure gouvernance en Afrique modifierait la donne ?
On a là une véritable interrogation sur le type d'État qui aujourd'hui doit prévaloir en Afrique. Je ne voudrais pas que la thématique de la gouvernance liée par exemple à celle de la transparence fasse oublier qu'il y a aussi une responsabilité de la communauté internationale et des États riches dans leurs relations avec ces États africains.